Les conférences du Collège de France.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus ce soir pour la troisième conférence de Daniel Mendelssohn. Avant de lui céder la parole, je voudrais juste faire une annonce que j'ai un autre conférencier qui arrive, qui est le professeur Kenichi Abe de l'Université de Tokyo, qui se trouve du reste ici même, et qui donnera demain et la semaine prochaine deux conférences sur la littérature japonaise. Donc la première conférence aura lieu demain à 15h, donc demain mardi 17 mars, sur les manuscrits de Kenzaburo Oe, le grand prix Nobel de littérature japonais, qui sont des manuscrits que j'ai vus moi-même, qui sont assez étonnants à voir physiquement par la beauté même des couleurs, des schémas qui sont dessus. Et cette conférence est accessible même si vous ne connaissez pas le japonais, et surtout si vous ne connaissez pas le japonais. Donc c'est vraiment une conférence qui aura lieu en français et pour des non-spécialistes de japonais, mais les spécialistes de japonais évidemment seront aussi intéressés. Et la deuxième conférence sera la semaine suivante, le mardi 24 mars, toujours à 15h, sur les traductions de littérature japonaise pendant la guerre froide, parce qu'en fait on a reçu différemment la littérature japonaise en Europe de l'Ouest et en Europe de l'Est pendant la période de la guerre froide, et c'est tout à fait intéressant. Donc venez nombreux le 17 mars et le 24 mars pour les conférences de Kenichi Abe. Ce soir, donc, ce qui nous réunit, c'est la troisième conférence de Daniel Mendelssohn, écrivain, essayiste, professeur à Bard College, et bon, auteur connu de nombreux livres considérés pour certains comme plusieurs comme des chefs-d'œuvre. Je vous rappelle que la prochaine conférence et dernière conférence du cycle de Daniel Mendelssohn aura lieu non pas le lundi, mais le mercredi, hein, notez bien ça, le mercredi 25 mars, toujours à 18h, elle se portera sur Antigone à Cracovie. Ce sera aussi un événement important puisque je donnerai à Daniel, je décernerai la médaille du Collège de France en remerciement de ses services au Collège pour ses quatre conférences. Mais ce soir, ce qui nous réunit, donc, c'est la troisième conférence qui, après les disparus et la Shoah, après l'Odyssée, porte ce soir sur l'immense poète grec qui est Constantin Cavafy. Et le titre de la conférence, c'est « Cavafy et l'érotisme de la perte ». Donc je te cède la parole, Daniel.
Bonsoir à tous, toutes et tous. Avant de commencer ma conférence, je voulais reconnaître quelqu'un qui c'était la personne qui m'a introduit à la poésie grecque et ancienne et moderne. C'était ma mentor intellectuelle et culturelle, Jenny Strauss-Clay, que je crois qu'elle est ici présente dans le public ce soir. C'était elle qui m'a introduit à cette grande tradition de poésie moderne, en grec moderne, et on aurait pu croire que c'était la dernière conférence où je devais la reconnaître parce qu'elle est une des expertes, des grandes expertes au monde sur la poésie ancienne, grecque ancienne, et surtout Homère. Mais en fait, pendant que j'étais undergraduate à l'Université de Virginie, il y a presque une demi-siècle, c'était elle qui m'a fait connaître les plaisirs de la poésie grecque moderne. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de drame de technologie ce soir, et je vais commencer avec Cavafy et l'érotisme de la perte. Si nous connaissons Constantin Cavafy, le grand poète alexandrin, né en 1863 et mort le jour même de son 70e anniversaire, le 29 avril 1933, c'est en tant que poète ayant consacré son œuvre à deux grands sujets: le passé hellénique lointain et l'intense désir homosexuel. Mais si les objets de son intérêt poétique étaient peu nombreux, la façon dont il traite ces objets était, elle, remarquablement variée. L'imagination du poète contemplait un passé grec s'étendant de la sombre préhistoire du mythe. Certains de ses premiers vers ont pour contexte la guerre de Troie, à la période hellénistique dans toute sa vaste étendue cosmopolite, de l'Égypte à la Syrie, en passant par la Grèce elle-même. Depuis l'apogée de la civilisation romaine, quelques poèmes acidulés sur César et Néron, ignorant les avertissements à la fois divins et humains, une série de vers très émouvants sur Marc-Antoine, un hellénophile pour lequel le poète alexandrin avait une grande affection, jusqu'à la fin de l'Antiquité, du début de l'Empire byzantin jusqu'à sa chute, en passant par son zénith doré. Quant au désir homosexuel, il revêt également de nombreuses tonalités dans l'œuvre du poète, de la réminiscence lugubre à la célébration jubilatoire, de l'angoisse à l'extase, même s'il convient de noter que même ici, c'est ce que nous pourrions appeler le passé érotique qui capte l'imagination du poète, puisque ce qui le préoccupe est le désir perdu, les occasions perdues d'un tel désir ou les satisfactions d'un tel désir trop brièvement obtenues puis perdues. Mais ce qui rend Cavafy si remarquable n'est pas, comme on est trop souvent tenté de le penser, qu'il ait réussi à être un poète du désir et un poète du passé, mais, comme j'espère pouvoir vous le démontrer ce soir, qu'il soit devenu un poète du désir à travers le passé. Il est parfois difficile de se rappeler, compte tenu de l'autorité totale de ses premiers énoncés poétiques, que Cavafy a effectivement expérimenté et s'est développé en tant que penseur et écrivain tout au long d'un demi-siècle de création. La chose qui ressort lorsque l'on examine sa carrière dans son ensemble est la façon dont le poète a appris à utiliser l'histoire, le passé, comme des outils d'exploration de la vie intime. Il a commencé, en effet, par une crise poétique et personnelle, un blocage. Comment parler du désir homosexuel? Cette crise, comprit-il, ne pouvait être résolue que grâce à son attachement intellectuel à l'héritage culturel grec. C'est un talent spécifiquement hellénistique, pourrait-on dire, un talent pour l'amalgame, pour la médiation entre des catégories apparemment distinctes, qui a permis à Cavafy de parvenir à un nouveau type de poésie, une grande poésie moderne dans laquelle deux éléments clés sont présents dès le début. Le désir fervent, d'une part, et l'absence douloureuse, d'autre part. L'érotique est ce que j'appelle la perte, ou ce qui a été perdu, une catégorie qui inclut des civilisations entières ainsi que de beaux garçons. L'érotique et la perte se sont progressivement réunies au cours de quelques années cruciales de son évolution artistique, d'une manière qui a fini par créer un troisième élément, de la même manière que de deux notes simultanées en naîtront une troisième, un son harmonique. Dans le cas de Cavafy, l'accent était mis sur une profonde conscience de la puissance de son propre art et une profonde compréhension de la nature de la poésie elle-même. En fin de compte, ce qui l'a uni n'était pas seulement l'ancien et le moderne, ou l'hellénique et l'hellénistique, l'européen et l'africain du Nord, l'européen et l'Asie occidentale, Mais en effet, ce qui l'a uni, c'était le disciple et l'indicible, la honte et l'orgueil, le latent et le manifeste, le réel et l'imaginé. Et dans la plus grande œuvre, le sujet et l'objet, le désirant et le désiré, l'écrivain et son inspiration, l'acte d'amour et l'acte de la poésie. Dans une note écrite tard dans la nuit du 9 novembre 1902, Constantin Cavafy soulignait avec un mélange typique de franchise et d'obscurité ce qui était jusqu'alors sa plus grande frustration créatrice. Il m'est venu à l'esprit ce soir d'écrire sur mon amour, et pourtant je ne le ferai pas. Tel est le pouvoir des préjugés. J'en ai été libéré, mais je pense à ces esclaves sous les yeux desquels ce journal pourrait passer, et j'arrête. Quelle pusillanimité! Permettez-moi néanmoins de noter une lettre, T, comme symbole de ce moment. Timos Malanos, le premier biographe de Cavafy, a fait la suggestion intrigante que la mystérieuse lettre T représentait le poème Mur, puisque ce T est la première lettre du titre grec, Tichy. Il est impossible de dire si cette hypothèse séduisante est vraie, mais elle sert à nous présenter un poème qui capture bien les modes émotionnels et poétiques qui marquent, en un sens, le lieu à partir duquel Cavafy devait grandir. Voici le poème « Mur » que je cite ce soir, comme les autres traductions, dans la traduction de Dominique Grandmont. « Mur, sans égard, sans pitié, sans scrupule, ils ont élevé de hautes murailles autour de moi. Et maintenant, je ne fais rien ici que me désespérer. D'un tel destin, la pensée m'obsède et me ronge, car j'avais beaucoup de choses à faire dehors. Pendant qu'on bâtissait les murs, ah, que n'ai-je pris garde! Mais jamais je n'ai entendu le bruit des maçons, ni leur voix. C'est à mon insu qu'ils m'ont enfermé hors du monde. » Le poème faisait partie d'un groupe que Cavafy, dans le classement thématique qu'il a fait de son œuvre, a classé sous le titre de « prison ». Il n'est sûrement pas difficile de comprendre pourquoi. Le sentiment d'être pris au piège, d'être coupé du monde urgent de la vie vécue, le sort désespéré d'une immunisation émotionnelle, tout cela est magnifiquement rendu en grec par une série alternée de rimes homophoniques de fin, qui enferment effectivement le sens, pour ainsi dire, dans la structure même du poème, et jette ensuite la clé. Ce poème a été écrit en septembre 1896, alors que Cavafy avait 33 ans, et a probablement été publié au début de l'année suivante. C'est à cette période, allant du milieu à la fin des années 1890, qu'appartiennent en effet certaines des œuvres les plus sombres de Cavafy, dont le très similaire « Fenêtre », écrit en août 1897, le titre offre une terrible ironie, puisqu'il s'avérera que les fenêtres que le narrateur cherche à ouvrir dans le vain espoir de trouver une consolation, en grec « parigoria », ne peuvent non seulement pas être ouvertes, mais en plus n'existent même pas. Plus terrible encore, dans les vers finaux, l'orateur se demande s'il est possible que cette enceinte oppressante, qui rappelle tant celle du poème Mur, est en fait pour le mieux, puisque peut-être la lumière causera-t-elle une autre oppression, tyrannia, un mot associé au moyen d'une rime de fin, un effet ironique amer ici, avec consolation, parigoria. Les fenêtres, dans l'obscurité de ces chambres où je coule des jours pénibles, je marche de long en large pour trouver des fenêtres. Si pouvait s'ouvrir une fenêtre, ce serait une consolation. Mais il n'y a pas de fenêtre. Ou est-ce moi qui n'arrive pas à en trouver? Et peut-être vaut-il mieux ne pas en trouver. Peut-être la lumière causerait-elle une autre oppression. Qui sait quelle chose nouvelle et découvrirait? Le fait que la lumière ne puisse qu'apporter une autre oppression au narrateur de ce poème suggère un désespoir terrible. Et c'était terrible, puisque nous savons que cela concernait la conscience douloureuse de ces pulsions érotiques illicites, l'homosexualité, à travers laquelle, bien sûr, Cavafy est devenu célèbre dans ses œuvres ultérieures. La puissance et l'autorité de ses énoncés poétiques ultérieurs sur sa vie homosexuelle, dans lesquels l'orientation de ses personnages est assumée avec désinvolture, ont tendance à nous faire oublier l'amertume claustrophobe de ses premiers poèmes, qui utilisent brillamment des moyens formels, des rimes hermétiques, des rythmes comme les barreaux d'une fenêtre de prison, pour suggérer le désespoir que le jeune homme ressentait quant à ses maigres chances d'épanouissement. On peut mesurer la détresse du jeune poète en lisant des poèmes comme « Un vieillard » composé en 1894, dans lequel Cavafy semble regarder vers l'avenir pour y voir la fin d'une vie qui a clairement été un échec. Dans ce poème, un vieil homme décrépit et assis au fond d'un bar bruyant, plongé dans ses pensées et coupé, comme l'est le narrateur du poème Mur, de l'agitation qui l'entoure par la conscience de son échec. Et il se rend compte qu'il a bien peu profité des années où il avait la force et la parole et la beauté, ayant à la place sacrifié combien de joie, posihara, à la méchante figure identifiée comme prudence, phronisis. Il est intéressant de noter, avant de laisser derrière nous ces premières années sombres de la carrière de notre poète, que le premier grand sujet de Cavafy, les opportunités perdues, le bonheur perdu, hante également, au cours de cette période, ses nombreuses invocations de l'héritage culturel grec du passé. On pense, par exemple, au poème « Interruption », un vers dont la compression ironique confine à l'acidité. Ce poème fait allusion au personnage mythique Métanir dans le mythe de Déméter et Pélée dans l'histoire d'Achille. Chacun a un parent qui a bêtement gâché les processus ésotériques par lesquels leurs enfants respectifs auraient obtenu l'immortalité, l'un en étant brûlé vivant, l'autre en étant trempé dans le Styx. Dans chaque cas, le rituel a été interrompu, d'où le titre du poème, par le parent qui, interprétant mal ce qu'il voyait, a, par inadvertance, privé son enfant de la vie éternelle. Interruption 1901. C'est nous qui empêchons de s'accomplir l'ouvrage des dieux. Nous, les créatures de l'instant, impatients et maladroites. Dans leur palais, Delius et Defti, Déméter et Tétis entreprennent des œuvres admirables parmi de hautes flammes et l'épaisse fumée. Mais toujours, il faut que Métanir se précipite hors des appartements du roi, échevelé, folle de terreur, et comme toujours, Pélée prend peur et s'interpose. Nous sommes ici carrément sur le territoire du grand mythe classique, un lieu où Cavafy, avec ses préférences alexandrins post-classiques, s'attardait rarement, en fait. Mais que ce soit dans la vie réelle des vieillards dans les cafés alexandrins ou dans le mythe classique, il est possible de voir dans ses premiers poèmes tourmentés, dont les chutes, pour ainsi dire, impliquent toutes un terrible recul, combien trop de prudence, phronesis, la caution excessive qui résulte d'une vision partielle, la myopie des hommes, leur allégeance aveugle à leurs propres préjugés, combien trop de prudence peut conduire à des morts à la fois réelles et métaphoriques. Un changement intéressant dans les orientations créatives et les accents poétiques de Cavafy commence à se produire environ 10 ans plus tard. Si l'on peut dire que le vieil homme pathétique de Un vieillard représente d'une certaine manière les premiers sentiments de Cavafy concernant ses chances d'épanouissement émotionnel autour de 1895, c'est en revanche au milieu de la première décennie du nouveau siècle, c'est-à-dire alors que le poète approche de la quarantaine, qu'on assiste à une évolution subtile mais cruciale. Depuis un regret amer pour la perte ou ce qui est perdu, amour perdu, opportunité perdue, même vie perdue, vers une sorte d'embellissement, voire d'érotisation de cette perte, ou plutôt des figures qui viennent la représenter à cette époque, les beaux morts. Si l'on peut utiliser la métaphore architecturale implicite dans le titre même du poète pour l'un de ses groupes thématiques, on pourrait dire qu'il est passé de l'époque des prisons oppressives à celle de beaux tombeaux. Considérez, par exemple, le petit mais ravissant poème rimé intitulé « Désir, Epithymias », écrite en septembre 1904. Beau comme des morts qui n'ont point vieilli, enfermés au milieu des larmes dans un mausolée splendide, le front ceint de roses et du jasmin aux pieds, tels sont les désirs qui nous ont quittés sans s'être accomplis, sans qu'aucun n'atteigne à une nuit de volupté ou à son lumineux matin. Ici, les opportunités perdues ne sont pas symbolisées par le corps inutile d'un vieil homme âgé et vaguement risible, mais par les corps immaculés de beaux jeunes morts. Il y a d'autres détails qui suggèrent que notre expérience de ce qui sont perdus devrait, cette fois, être belle. Il y a ces roses, le jasmin parfumé, le splendide mausolée lui-même. Si, dans les poèmes appartenant au groupe Prison, Cavafy a utilisé des éléments formels pour construire des contenants de regrets semblables à des prisons, il a ici commencé à créer des poèmes qui reflètent également un sentiment de bonheur perdu. Mais ces maisons sont explicitement associées au plaisir et même à la beauté. l'association croissante entre le monde des perdus ou disparus et le monde du beau apparaît également dans un court poème écrit en 1894, mais révisé en 1903 et publié l'année suivante, intitulé « Voix, phonès ». Voix idéales et bien-aimées de ceux qui sont morts ou de ceux qui sont perdus pour nous comme s'ils étaient morts. Parfois, elles nous parlent en rêve. Parfois, dans la pensée, le cerveau les entend. Et avec elles résonnent pour un instant les accents de la première poésie de notre vie, comme une musique dans la nuit, au loin, qui s'éteint. Ici, c'est comme si les cadavres du poème « Désir » étaient revenus nous hanter, telles des voix fantomatiques. Comme nous le verrons, cette transsubstantiation du corporel en verbal reviendra plus tard de manière bien plus élaborée, avec une signification considérable pour la compréhension qu'a Kovafi de son propre projet poétique et de son pouvoir. Ce qui mérite d'être noté à ce stade, c'est le processus par lequel la beauté se substitue constamment à la perte, car l'accent ici n'est pas tant mis sur les voix des perdus, mais sur le fait qu'elles sont accompagnées d'autres accents, les sons de l'art, la musique, la poésie. Ou plutôt, les voix sont, à la fin du poème, indissociables de la poésie et de la musique, comme le suggère le vers final, magnifique et poignant, avec ses assonances caressantes et ses consonnes liquides tellement séduisantes en grec. Et la dernière ligne en grec, c'est « Sa musiki ti nichta makrini pousvini » comme la musique dans la nuit au loin qui s'éteint. Ici, l'idée du perdu, symbolisée par le verbe « svino » « éteindre », prend un éclat esthétique et langoureux, associé de manière assonante, telle qu'elle est, à la nuit maussade, nichta, et lointain, makrini. C'est un autre poème tombe, comme voix, datant à l'origine des années 1890, mais retravaillé et publié dans la première décennie du nouveau siècle, qui fait progresser le plus pleinement et avec la plus grande complexité le projet de transformation de la perte et de ce qui a été perdu en une beauté érotisée qui, à son tour, fait allusion de manière réfléchie au pouvoir du poète et de la poésie. Le poème intitulé « Les funérailles de Sarpédon » réinvente un moment du grand mythe classique, la mort aux mains du héros grec Patrocle, du fils de Zeus, Sarpédon, combattant aux côtés des Troyens, que relate le 16e livre de l'Iliade. Le poème est trop long pour être reproduit sur l'écran, mais je vous le décrirai. Ce poème commence par la mort du jeune guerrier, demi-devin, et par la tentative des Grecs de déshonorer le cadavre. Et pourtant, même si ce corps, comme par exemple celui du vieil homme dans le poème « Un vieillard », est d'abord hideux, décrit par le poète comme étant couvert de poussière, de sang et de plaies ouvertes, il subit une transformation remarquable, racontée avec une langueur presque lascive, rappelant une stripteaseuse. Car le poète continue en montrant avec force détail, appelant l'avant et soignant le cadavre, effaçant le saleté et le sang, guérissant les terribles blessures, sans plus laisser paraître aucune trace, puis loindre d'ambroisie parfumée et l'habiller de vêtements splendides et olympiens. Puis le dieu blanchit la peau, peigne les cheveux noirs de jais, dispose et arrange les membres. Le résultat est que Sarpedon mort ressemble, dit le poète, à un jeune et royal aurige qui aurait dans les 25-26 ans et qui se repose après avoir remporté la victoire à un prestigieux championnat. En entendant cela, il est difficile de ne pas penser au corps délicieusement arrangé, parfumé et immaculé des beaux morts dans le poème « Désir », à l'exception, bien sûr, du fait que le Sarpedon transformé et embelli était si fantasmé comme étant extatiquement épanoui, se reposant après un triomphe culminant, plutôt que privé des plaisirs de la vie. Et en effet, si ce poème vient à amplifier ce que proposait déjà celui que le précède, il effectue aussi quelques transformations cruciales. Là, les cadavres sont certes beaux, mais à la fin du poème, ils sont toujours enfermés dans le radieux tombeau des pleureuses en larmes. Ici aussi, on aperçoit le cadavre, autrefois défiguré, puis embelli par Apollon, mais il y a bien plus encore. Après l'intervention cosmétique d'Apollon, le corps du jeune mort est transféré à Lycie, sa ville natale, Lycie où ont lieu les funérailles au titre éponyme du poème. Le rite est décrit comme étant élaboré avec des libations, des processions et des honneurs. Et pourtant, le poème ne se termine pas par les obsèques, mais par les faits suivants. Que des artisans habiles de la ville et des sculptures réputées étaient venus fabriquer le monument et la stèle funéraire. Dans le poème « Désir », c'était en fin de compte la mort des corps qui triomphaient de leur beauté, comme le suggéraient ces derniers vers magnifiquement sombres, sans s'être accompli, sans qu'aucun n'atteigne à une nuit de volupté ou à son lumineux matin. En revanche, notez dans les funérailles de Sarpedon à quel point l'accent est mis sur l'acte de commémoration artistique qui fera vivre un Sarpedon embelli en tant qu'objet à la fois visuel et verbal, la statue et la stèle funéraire. En effet, nous avons là l'idée que l'acte créateur est non seulement parallèle, mais en plus, il rivalise en quelque sorte avec et finalement éclipse le soin de beauté prodigué par l'immortel Apollon. Si Sarpedon, d'une beauté marmoréenne, ressemble grâce à Apollon au vainqueur d'un prestigieux championnat, ce corps-là pourrira néanmoins. Au contraire, les célèbres artisans mortels, réputés pour leur art, rendront ce corps véritable immortel. Les allusions croissantes dans les poèmes des premières années du siècle, selon lesquelles le monde qui a été perdu est encore récupérable, reconstituable pour une appréciation esthétique pour l'art, sont triomphalement confirmées dans un poème intitulé « Décembre 1903 ». Poème jamais publié par Cavafy, mais catalogué par lui en janvier 1904, au moment où il entre dans cette nouvelle phase, une phase durant laquelle il commence à maîtriser cette manière de récupérer le désespoir érotique de la décennie précédente pour l'associer à la beauté et finalement à la poésie. Le poète affirme ici que même si je ne parle pas de mon amour, divers traits de l'être aimé, son visage, le son de sa voix, certains jours de septembre où, vraisemblablement, l'affaire a eu lieu, donneront forme et couleur à ses mots et à ses phrases, quel que soit le sujet sur lequel il écrit, et peu importe de quoi il parle. Décembre 1903. Même si je ne peux pas parler de mon amour, si je ne dis rien de tes cheveux, de tes yeux, de tes lèvres, ton visage pourtant reste gravé dans mon esprit. Le son de ta voix reste gravé dans ma mémoire. Et ces jours de septembre qui pointent dans mes rêves donnent forme et couleur à mes mots, à mes phrases, quel que soit mon sujet, quelque idée que j'énonce. Il est impossible de ne pas entendre ici un fort écho de la note personnelle du poète que j'évoquais en introduction, dans laquelle le poète se plaint de l'impossibilité d'écrire sur son amour, tout comme il suggère indirectement dans cette note-là, si la lettre T signifie effectivement tihi, mur, que sa poésie finira par parler d'une manière dont lui-même ne peut pas parler. Ici aussi, dans décembre 1903, sous la forme même d'un poème, nous trouvons une affirmation plus audacieuse de la même notion, que, à la fin, l'activité poétique triomphera de l'absence réelle, du silence et des occasions perdues, comme en effet ce poème lui-même nous parle si magnifiquement de ce dont le poète, dans sa vraie vie, ne peut dire mot. Une autre décennie s'écoule. Nous passons de la première décennie du XXe siècle à la deuxième, de la quarantaine à la cinquantaine du poète. L'entrelacement progressif est de plus en plus sûr de la perte de la beauté érotisée et de la poésie elle-même, atteint son apogée dans une remarquable série de poèmes, tous écrits au plus fort du carnage de la Première Guerre mondiale, un conflit dont les grands massacres de jeunes hommes ont sûrement inspiré cette série. Des poèmes qui, en fait, prennent la forme d'inscriptions sur des stèles funéraires, celles-là même sur lesquelles culminait le poème « Les funérailles de Sarpedon ». Dans ces poèmes, le poète renonce aux beaux cadavres, concentrant notre attention plus audacieusement sur des questions textuelles plutôt que sexuelles. Sarpedon, rappelons-le, possédait à la fois un monument, une sorte de statue de pierre, et une inscription. Dans cette nouvelle phase du développement de Cavafy, il y a un glissement imaginatif et poétique de l'un à l'autre, du visuel au verbal. La stèle poème « Tombeau d'Iassis », composé en 1917, prend la forme de l'inscription funéraire d'un ancien jeune alexandrin imaginaire. Ici je repose, Iassis, en cette grande cité, jeune homme recherché, s'il en est, pour sa beauté. J'ai fait l'admiration des sages, ainsi que du vain peuple et des petites gens, et j'ai ressenti un égal plaisir aux deux. Mais à force d'être pour chacun Hermès ou Narcisse, les excès m'ont anéanti, terrassé. Passant, si tu es d'Alexandrie, ne me juge pas. Tu sais la fougue de notre vie, quelle est sa fièvre, sa suprême volupté. Les vers sont laconiques mais frappants. Si, pendant la première décennie du siècle, Cavafy expérimente l'esthétisation de ceux qui sont perdus, symbolisés par de jolis cadavres qui font l'objet d'un intérêt visuel érotique fasciné. Dans la seconde décennie, nous le voyons faire quelque chose de bien plus audacieux. Ce que font ces poèmes, qui prennent la forme de stèles gravées, c'est qu'ils transforment en fait les objets en sujets, donnant une voix affirmée aux beaux cadavres que la phase antérieure de ces poèmes, obsédés par la mort, décrivait avec tant de détails caressants. Contrairement au corps du poème « Désir » ou au cadavre embelli de Sarpedon dans les funérailles de Sarpedon, le beau garçon de Tombeau d'Iassis a un esprit ainsi qu'un corps, le corps dont il parle avec un aplomb considérable. Et ce dont il parle, en fait, ce qu'il exprime avec une candeur presque agressive, c'est le sentiment érotique que nous avons éprouvé seulement de manière indirecte, presque de manière lascive, à travers les descriptions des cadavres dans ses poèmes antérieurs. Si, dans le poème « Voix », écrit près d'un quart de siècle plus tôt que ce tombeau d'Iassis, on entendait les voix des morts, elles étaient encore indistinctes. Le poète ne nous dit pas ce que ces morts disent. Ce n'est pas du tout le cas dans ce poème et dans d'autres poèmes sur des stèles funéraires des années 1910. Dans un poème intitulé « Le tombeau de Lannis » de décembre 1916, le garçon mort Lannis reproche à son petit ami Marcos de pleurer sur sa tombe alors que sa beauté peut être trouvée dans le portrait que l'antiché Marcos avait autrefois peint de sa bien-aimée. Dans « Tombe d'Ignace » d'avril 1916, le jeune homme, mort à 28 ans, reproche au lecteur de penser à lui tel qu'il était autrefois, le jeune extravagant et riche Cléon, son nom avant qu'il ne se convertisse au christianisme. Mais aucun de ces narrateurs n'est aussi agressif, en parlant d'agressivité, mais aucun de ces narrateurs n'est aussi agressif que Iassis, qui, au contraire, a beaucoup moins de respect pour son beau corps que le poète lui-même n'en avait pour celui de Sarpedon, ou ce que nous avons contemplé dans le poème « Désir ». Il s'est épuisé à céder à ses pulsions. Le mot est, en fait, le même que celui utilisé par le vieil homme dans le poème « Un vieillard » pour décrire les pulsions de jeunesse qu'il n'a pas eu le courage d'actualiser. Il a cédé à ses pulsions, s'est livré à la mort. Et qu'en est-il? Les Alexandrins, héritiers de la culture païenne, comprendront. Ici, enfin, nous ressentons véritablement la liberté dont Cavafy parlait en chuchotant, pour ainsi dire, dans sa note datée 1902, dans laquelle il a écrit « Tel est le pouvoir des préjugés, j'en ai été libéré ». La liberté s'égalant maintenant dans le poème « Tombeau d'Iassis », non seulement à un désir interdit qu'il se permettait à peine d'espérer à l'époque, mais aussi à une exultation positive dans la réalisation interdite. Jusqu'à présent, le poète est passé de la diffamation des perdus, opportunité perdue, amour perdu, bonheur perdu, à une objectivation de ceci, et de là à ce que nous pourrions appeler une subjectivation, un processus par lequel il ennoblit le perdu et lui donne sa propre voix. Il y a cependant un pas de plus que Cavafy doit franchir pour atteindre sa grande maturité, un pas qui alchimise la voix des beaux morts en une voix qui, comme nous le verrons, est celle du poète lui-même, ou plutôt de la poésie elle-même, qui, dans tant de grandes œuvres que le poète a écrites vers la fin de sa vie, parle avec vivacité de ses propres rouages mystérieux. Le dernier poème dont je parlerai en détail, une variation fascinante sur le thème des stèles funéraires, est un poème intitulé « En ce mois d'Hathor », également écrit en 1917. À première vue, cela semble assez simple, voire moins saisissant que le poème de Yacis. Ici encore, on nous présente une stèle funéraire, une pierre ancienne qui donne les moindres détails de la vie d'un jeune homme, un chrétien appelé Lefkios, décédé à 27 ans à la fin de l'automne, au cours du mois consacré à la déesse égyptienne Hathor. Et pourtant, cette inscription est différente sur un point crucial de celle annonçant la mort de l'hédoniste Yacès, car le texte de ce poème montre clairement que l'inscription est très détériorée et est, en effet, remplie du genre de ponctuation, crochet, ellipse, familière aux épigraphes, papyrologues et autres qui étudient les textes fragmentaires du passé, marques qui annoncent la perte de lettres et de phrases et qui renferment des suggestions éditoriales sur ce qui aurait pu y être contenu. En ce mois d'Hathor, j'ai mal à lire sur la pierre antique, Seigneur Jésus-Christ. Je distingue un âme. C'est en ce mois d'Hathor que Lefkios s'endormit. À la mention de l'âge, ce qu'il vécut d'année, la Kappa Zeta prouve que le jeune y s'éteignit. Dans les endroits endommagés, je vois lui-même, alexandrin. Les trois lignes qui suivent sont très mutilées, mais je déchiffre quelques mots, comme nos larmes, douleur, puis de nouveau larmes et deuil pour ses amis. Il me semble que Lefkios a été beaucoup aimé. C'est en ce mois d'Hathor que Lefkios s'endormit. Ici, les mots ne rapportent plus les pensées du garçon mort. Son corps n'est pas non plus l'objet d'un regard chargé d'érotisme. Il y a, en fait, un déplacement complexe en cours dans ce texte, car ce sont les amis en deuil qui prennent ici la parole, dont un est l'auteur de l'inscription. D'une certaine manière, nous entendons ces amis simplement grâce au cadrage encore plus poussé de la lecture des mots qui transmettent ce qu'ils ont dit autrefois. Et si leurs mots, érodés, dictés, puis gravés, puis lus, puis rapportés, dressent le tableau habituel, une jeunesse, alexandrin, chagrin, ami, mort dans la vingtaine, ce qui est le plus frappant est la façon dont la lascivité visuelle des premiers poèmes sur les cadavres, les poèmes qui posaient sans cesse la question « À quoi ressemblait-il ?» est devenu ici une sorte de lascivité verbale. Que disait-il réellement de lui ? Ou bien, qu'est-ce que l'inscription aurait dit ? Des questions qui, à leur tour, nous amènent à la réponse à une autre question. Qui était-il ? J'ai utilisé le mot « lascivité » en discutant de ce poème, non sans gêne, parce que la nature fragmentaire et alléchante de l'inscription crée sûrement une sorte de désir de connaître l'ensemble. Mais ce désir paraît rassurant et philologique. Il est, je pense, assimilé à l'érotique. Notez comme nous commençons par un état de frustration lente, mais bien réel. Je lis et avec difficulté. Je comprends à peine. Nous commençons avides d'entrevoir non pas ostensiblement un beau corps, mais cette fois un texte. Pourtant, ce texte est, je pense, subtilement assimilé à un corps, car, tout comme un corps, il est sujet à la décomposition. Le mot ici traduit par « endommager », c'est « pharmena », participe passé du verbe « pourrir », « phthiro », un mot que Cavafy aime utiliser dans plusieurs poèmes pour décrire la chair dans un des états auxquels il est sujet. Juste comme un corps, ce texte est sujet à la décomposition et en effet, on apprend qu'il a eu trois vers amputés, acrotiriasmenes, mot frappant. De plus, ces détériorations, mutilations et pertes épigraphiques sont parallèles et rappellent donc inévitablement le sort de cet autre objet disparu, le jeune Lefkios lui-même, dont le corps en décomposition repose vraisemblablement pharmène, endommagé, sous la stèle même que nous lisons. Et pourtant, de toute cette déchéance, de cette absence et de cette perte, il résulte quelque chose de bon et de beau. Car la métamorphose du corporel en verbal que nous avons vu ici s'accompagne d'une alchimie encore plus étrange, celle du rien en quelque chose. À partir des pertes jumelées, celle du garçon, sur lequel nous disposons d'informations partielles, et celle du texte, à partir duquel nous essayons de glaner ces informations, le narrateur, c'est-à-dire le lecteur, reconstitue néanmoins triomphalement quelque chose de significatif, dans un acte culminant qui parvient à être à la fois un acte d'interprétation et un acte de création. Car, malgré toutes les absences, les vides, l'incomplétude, le lecteur-narrateur du poème est capable de tirer une belle conclusion. Il me semble que Lefkios a été beaucoup aimé. Ce qu'on a pu extraire de toutes ces décompositions, c'est l'amour. Lu dans le contexte de l'expérimentation continue de Cavafy sur l'entrelacement de la beauté et de la perte, du désir et du mort, ce poème réalise une substitution remarquable des mots au corps, de la lecture au regard, du langage au désir et enfin de l'amour à la perte, ou peut-être mieux, un amalgame de toutes ces choses qui élève pourtant notre conscience de ce son harmonique dont j'ai parlé plus tôt, qui est le pouvoir de l'esprit d'établir des connexions, des amalgames, des interprétations, c'est-à-dire le pouvoir de la poésie. Je dis de la poésie plutôt que de la simple écriture, parce que je crois que nous sommes censés penser ici à quelqu'un d'autre que le pauvre Lefkios. Pensons un instant à la note misérable et frustrée de Cavafy en 1902 sur son désespoir érotico-poétique, l'incapacité de parler, les élisions nécessaires, les parties qui doivent d'une manière ou d'une autre suggérer le tout. La foi presque pathétique dans une seule lettre énigmatique, T, qui, isolée, pourrait bien transmettre un poids impossible de sens urgent. Sûrement tout cela réapparaît dans le remarquable poème « En ce mois d'Athor » avec ses élisions, manques, incomplétudes. Comme tout aussi sûrement, le poète lui-même réapparaît, car c'est aussi quelqu'un dont, comme il l'avait suggéré il y a tant d'années, nous connaissons certaines choses, mais pas toutes, quelqu'un qui oscillait entre discours et silence exaspérant. La différence cruciale entre 1902 et 1917, cependant, est que ce qui ne pouvait pas être prononcé auparavant a été articulé ici, dans une demi-ligne qui est le point culminant du poème, tout comme ce poème, dans l'œuvre du poète, marque un point culminant de tout ce qui a précédé. Il m'est venu à l'esprit ce soir d'écrire sur mon amour, dit le premier discours cavafien de ce soir, datant de 1902, mais je ne le ferai pas. Il me semble qu'il était aimé, annonce sans honte cette dernière phrase du poème de 1917. Et voilà, il a été aimé. Cavafy a identifié l'année 1911 comme la porte d'entrée de son œuvre de maturité. Mais je me demande si cette naissance décrétée par le poète n'était pas prématurée de quelques années. Pour ma part, je considère « En ce mois d'Athor » comme cette porte d'entrée vers la grande période créatrice entre 1917 et 1932, qui a vu un flot incessant de chefs-d'œuvre dans lesquels un triple amalgame remarquable de désir, de perte et de poésie est réalisé à un nouveau niveau, éblouissant de complexité et de subtilité. Dans nombre de ses œuvres ultérieures, les motifs de désir et du regard, de la réflexion et de l'autoréflexion, de l'écriture et de l'interprétation, de la présence et de l'absence, d'hier et d'aujourd'hui, de lire l'art et de le créer, fusionne avec une douce émotion féroce que nous reconnaissons comme la marque du style cavafien à son apogée. Mais avant de passer à un dernier poème, un poème de cette époque, il convient de repenser à la frustration avec laquelle nous avons commencé ce soir, au monde bâillonné, contrarié, aigri de cette note privée de 1902, des poèmes tellement pessimistes intitulés « Murs et fenêtres ». Il est, en effet, tentant de se demander si Cavafy lui-même, dans sa vieillesse, avait pensé avec ironie à ses deux sombres premiers poèmes, « Murs et fenêtres », lorsqu'il a composé ce dernier poème dont je vais parler, qui est une réplique triomphale à eux, une réplique qui culmine, en effet, dans la joie, la fierté et un acte de création par la mémoire. Car si un mur est une surface plane et impénétrable qui, pour ainsi dire, retient trop bien les choses, et si une fenêtre est une surface plane transparente qui en contient trop peu, alors comment mieux suggérer les deux à la fois en transcendant peut-être les limites de l'un et de l'autre, qu'au moyen d'un miroir qui offre à la fois planéité et profondeur, une opacité sans claustrophobie et une sorte de transparence qui contient pourtant quelque chose, qui d'ailleurs confond soi et autrui, sujet et objet, ici et là. En d'autres termes, comment mieux symboliser la poésie elle-même, qui doit servir d'intermédiaire, comme l'œuvre de Cavafy l'a finalement fait, d'ici là, entre l'épanouissement et le désir, entre la solide réalité extérieure et les visions intérieures fantastiques de ce qui a été, de ce qui pourrait être. Des visions irréelles dont nous, créatures très réelles, tirant notre subsistance. Le miroir dans le vestibule de 1930. Cette riche demeure recelait dans son vestibule un immense miroir très ancien, acheté au moins 80 ans plus tôt. Une superbe garçon, commis chez un tailleur, le dimanche, athlète amateur, se trouvait là avec un paquet. Il le remit pour aller chercher, il le remit à quelqu'un de la maison qui l'emporta à l'intérieur pour aller chercher le reçu. Le garçon tailleur resta seul et attendit. Il s'approcha du miroir et s'y regardait en arrangeant sa cravate. Au bout de 5 minutes, on lui amena le reçu. Il le prit et s'en alla. Mais le vieux miroir, qui avait vu et revu au cours des années de sa longue existence des milliers de choses et de visages, mais le vieux miroir maintenant se réjouissait, débordant de fierté, car il avait retenu sur lui la beauté parfaite pendant quelques minutes. Miroir ancien. Il serait difficile de penser à une expression qui suggère non seulement le poète lui-même, là de la connaissance des âges et pourtant toujours réceptif à l'impression d'une nouvelle beauté sur sa sensibilité, ce mélange typiquement cavafien de cynisme et de fraîcheur ardente, mais aussi sa poétique, son utilisation de l'ancien pour renvoyer l'image de notre moi contemporain dans toute son émotion toujours ardente et toujours perdante. Dans ce qui précède, j'ai tenté d'apporter un peu de lumière sur cet objet éblouissant qu'est le miroir poétique et sur le processus par lequel, au cours de 40 années, Cavafy est parvenu à le construire. Le miroir dans le vestibule a été publié en 1930. Quant au poète lui-même, il continuera à porter et à refléter la beauté disparue, dont il ne reste bien sûr à contempler aujourd'hui que le souvenir que le poète nous en a laissé, jusqu'à ce que, 3 ans plus tard, sa propre disparition fasse de lui, enfin, un de ces beaux perdus dont les paroles, si je puis me permettre de conclure en paraphrasant les siennes, reviennent encore et encore vers nous, comme une musique fuyante et pourtant, comme le suggère notre présence ici en cette soirée de printemps, toujours présente dans la nuit. Merci.
Collège de France. Le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.